Estás uma Marthe est un témoignage d'une époque où domine le silence, un silence collectif, et je dirais même une complicité collective. Ce silence a été relativement brisé par la publication de cet ouvrage. J'espère que cette manière de mettre fin au silence continuera et creusera son chemin pour que la vérité soit établie, pour que toute la lumière soit établie sur les crimes qui ont été commis au Maroc et surtout pour que dorénavant les droits humains soient intégralement respectés dans leur signification globale et universelle. Je m'appelle Aziz Mseudi, membre de l'AMDH.
Les droits humains ici au Maroc, c'est un volet très essentiel dans la vie des Marocains. Au Maroc, tout n'est pas parfait concernant les droits humains et je m'appelle Mohamed Boukili, membre du bureau central de l'Association marocaine des droits humains.
Il n'y a pas suffisamment d'études académiques, scientifiques, critiques qui permettent de disséquer un petit peu ce mkhzen pour dire exactement qu'est-ce que c'est. C'est encore presque comme une force occulte. Le mkhzen, c'est-à-dire le système politique, le pouvoir politique au Maroc dans ses particularités, dans ses spécificités. Pour ne pas utiliser des termes féodalité ou autres qui ont pris naissance dans d'autres formations sociales à travers l'histoire, je dirais que la notion de mkhzen permet de mieux cerner la réalité concrète du pouvoir politique au Maroc. Tazma Marthe, c'est un volet, c'est un aspect parmi d'autres qui permet de comprendre cette signification particulière, profonde, où le roi ou sultan est presque un dieu sur terre et le sujet n'est pas du tout citoyen. Donc à partir du moment où ce sujet s'attaque, ose en quelque sorte critiquer ou ose s'attaquer à cette personnalité qui est sacrée, qui est divine, le sujet doit être condamné à un enfer sur terre. Et cet enfer sur terre, c'est Tazma Marthe en quelque sorte. Tazma Marthe, c'est le non-droit, c'est l'arbitraire absolu. Je voudrais ajouter un élément très important. C'est ce qu'on néglige un peu souvent et ce sur quoi je réfléchis un petit peu personnellement, c'est l'aspect historique et sociologique de la répression au Maroc. Nous savons qu'au Maroc, le système carcéral type européen a été introduit avec le colonialisme et qu'auparavant, il n'y avait pratiquement pas de prison. C'était des oubliettes et c'était une formule très proche de ce qui existait avant au Moyen-Âge. Alors là, je me pose une question. Est-ce que Hassan II n'a pas conservé un petit peu ce système des oubliettes à travers justement Tazma Marthe? Est-ce que Tazma Marthe n'a pas été une oubliette parmi d'autres? Je citerai le cas de Agdez, je citerai Darma al-Mukri, Qalat Mgouna, l'aéroport d'Anfa, Derb Mouli Chrif, surtout l'aéroport d'Anfa où avait été détenu arbitrairement. Et en 1973, c'était le soulèvement de Darb Ouazza, la région de Khnefa, dans l'Atlas. C'était des familles entières, parfois on trouve des femmes avec leurs petits-enfants dans cet aéroport-là. C'est un grand hangar qui auparavant servait de dépôt pour, je pense, les céréales à l'époque coloniale, qui a été réaménagé pour accueillir des dizaines de familles, de personnes qui se sont révoltées à l'époque en 1973, ou je dirais, époque à laquelle il n'était nullement possible de rêver à un changement à travers des moyens pacifiques, à travers des élections, donc où la violence était vue comme un moyen nécessaire pour arracher des droits.
Le livre de Marzouki est venu comme un témoignage qui émane d'une victime. et non pas d'un écrivain ou bien d'un auteur ou bien un observateur comme Christine Serfati. C'est ça qui fait la différence. Un témoignage d'une victime, c'est une preuve. Puis, le pouvoir marocain est devant un choix. Est-ce qu'ils vont continuer pour la vérité, faire toute la vérité sur qui a ordonné l'existence de ce genre de ban, qui a ordonné l'enlèvement de ces victimes, qui est responsable de la mort de ces victimes et de la continuité de la disparition d'autres. L'Association marocaine des droits humains croit plutôt au concret. Ordonner une enquête judiciaire vraiment indépendante avec la participation des défenseurs des droits humains, de la société civile, de juges honnêtes marocains. J'ouvre la parenthèse, ici l'appareil judiciaire marocain est très corrompu. Alors l'existence de juges honnêtes et intègres est un facteur essentiel. Et ça, ces signes qui vont donner vraiment l'évidence que le régime marocain a vraiment l'intention de trouver une solution équitable et honorable pour l'histoire du Maroc.
Personnellement, j'ai utilisé une expression pour qualifier cette situation, c'est celle de mise à niveau du système de répression au Maroc. À travers la publication de l'ouvrage de Tazma Mart, si le système essaye d'exploiter cette publication dans un sens de récupération, le message serait « il n'y aura plus de Tazma Mart, mais attention, il y a des prisons en bonne et due forme pour les gens qui osent ». On va appliquer les textes. Et d'ailleurs, cette mise à niveau, je crois qu'on l'a perçue un petit peu à travers les soi-disant réformes du Code des libertés, lesquelles réformes ont en fait consacré ce qui était exceptionnel pour devenir la règle. Par exemple, l'article 77 du Code de la presse, on a essayé pratiquement de le consacrer. Actuellement, tel qu'il est rédigé, l'interdiction d'un journal peut émaner par simple décision administrative, soit par le ministre de l'Intérieur, soit par le Premier ministre. La même chose pour le Code de procédure pénale. Il est vrai qu'on dit que dorénavant, la personne qui a fait l'objet de torture, qui passe devant la justice, en principe, si la torture est prouvée, le PV doit être annulé. Bon, c'est une bonne chose, mais on n'a pas interdit la torture. Vous voyez, la non-indépendance de la justice, bien qu'on révise les textes, bien qu'on puisse les réformer, cette non-indépendance est à l'origine, est à la source de la non-effectivité, efficacité et applicabilité des lois. Donc on a beau, on peut même à la limite un petit peu faire des réformettes, mais si les structures sont les mêmes, si les relations, les rapports de force, les vrais rapports de force dans le pouvoir ne changent pas, eh bien les textes seront inopérants.
L'impact du mouvement humanitaire international était et toujours présent. Et durant une certaine période de l'histoire du Maroc, c'était plutôt l'impact du mouvement humanitaire international qui avait plus d'impact sur les autorités marocaines que celle qui est au Maroc. Je donne l'exemple d'Amnesty International, la présence d'Amnesty International ici au Maroc, avec ses rapports, avec ses visites d'observation, avec ses audiences avec les autorités marocaines, avait de l'impact sur le processus de libération des prisonniers marocains, prisonniers d'opinion et politiques ici au Maroc, avait aussi de l'impact sur ce que fait l'AMDH, l'OMDH et les autres défenseurs des droits humains marocains ici. C'était comme un soutien.
Mais il y a aussi les exilés politiques marocains qui se sont organisés, qui ont créé une force d'appui externe pour les mouvements qui, à l'intérieur, luttaient dans des conditions beaucoup plus difficiles. et très souvent dans la clandestinité, qui étaient exposés à la répression donc sauvage, surtout pendant les années 70. C'est un petit peu ce mouvement collectif, interne et externe, qui a permis d'arracher quelques acquis. L'ouvrage de Mourzouqi est d'abord un témoignage d'une époque, d'une répression vécue. Et jusqu'à maintenant, les personnes mises en cause n'ont pas réagi. Et sur le plan juridique, cela veut dire qu'ils reconnaissent. Donc il n'y a pas eu d'action en justice pour diffamation par les personnes citées dans l'ouvrage. Donc sur le plan juridique, c'est une reconnaissance. Et je crois que c'est un acquis. Maintenant, c'est une preuve, c'est un élément sur lequel le mouvement qui lutte contre l'impunité peut s'appuyer. C'est une pièce à conviction. C'est aussi un moyen de dire qu'il ne faut pas oublier. C'est un signe qui n'est plus isolé, qui veut dire oui, il faut dire, il faut raconter les choses, il faut dire les choses. Et si vous voulez qu'on tourne la page, il faut d'abord bien la lire. Il faut la lire, il faut la rendre claire, il faut aller même beaucoup plus loin. C'est ce que l'Association marocaine des droits humains revendique d'ailleurs. Non seulement connaître ce qui s'est réellement passé, connaître la vérité, mais connaître les auteurs des crimes contre l'humanité qui ont eu lieu. Et les connaître non pas pour les juger, les condamner, pour se venger, mais simplement pour... c'est une question de justice. Parce que les auteurs des crimes de l'humanité qui n'ont pas été reconnus coupables, je dirais qu'au niveau collectif, au niveau national, il y a un risque de rechute.